Bonjour Grand Portage. Les Basques.
À 8h23, on va rejoindre Jean-Pierre Rioux pour la chronique des Basques. Salut Jean-Pierre.
Salut Kevin.
J'aime particulièrement ton premier sujet. Tu le sais que je suis un passionné de sport et ton premier sujet touche au sport, bien sûr. Tu veux nous parler de Linda Joubert.
Oui, qui est peut-être chez les gens pas inaperçue, mais Linda Joubert, elle, c'est la mère de Charlie Bilodeau.
Ben oui.
Elle était aux Olympiques, puis Charlie a été formée par sa mère, Linda Joubert. Et Linda elle-même, quand elle était jeune, c'est trois pistoles, était impliquée bien gros dans le club de patinage artistique. Elle a commencé à patiner très jeune ici. Elle a pris goût à ça. Elle s'est impliquée là pas mal d'une bonne partie de sa vie. Et en parallèle à ça, ben, elle travaillait au SADC. Bon, elle vient de prendre sa retraite. Là. Des gens qui ont des commerces dans la région des Basques ont dû souvent passer par elle pour prendre des décisions financières et tout, mais peu importe. Ce qui vous amène à parler de Linda Joubert ce matin, moi, c'est que elle s'est rendue il y a quelques semaines là à Ottawa pour participer à l'Union internationale de patinage artistique à Ottawa. Là, ça veut dire que c'est plein de monde de partout qui vont là pour faire une compétition amicale, mais ça s'adresse aux personnes qui ont entre 58 et 67 ans. C'est pas des jeunesses. Puis tu sais, Kevin, quand on joue au hockey, quand t'as 20 ans ou quand t'es rendu à 70 ans, ben, faut savoir quand tu l'as, t'as pas la même agilité, la même souplesse
sur
la glace.
Mais non.
Mais en patinage artistique, c'est pareil. Ils font pas une patinée puis des tours de patinoire, là. Ils font des formes, des figures, de style et tout. Alors, quand une personne qui est âgée entre 58 et 67 ans se dit, moi, je suis capable de monter à Ottawa puis faire une démonstration de mon art, ça veut dire que cette personne-là s'est gardée en forme encore. Et puis, elle a encore cette passion-là du patinage artistique. Quoi qu'il en soit, c'est qu'elle a même mérité, Caroline, une reconnaissance lorsqu'elle a été là-bas, à Ottawa. Puis là, elle pense d'aller en Allemagne au mois de mai qui s'en vient, puis à Nashville en octobre 2023, puis en Italie en 2024. Fait que moi, de ce que je ressors de ça, c'est qu'une personne, même si tu prends de l'âge dans ta vie, dans notre époque d'aujourd'hui, tu peux avoir un choix d'être assis devant ta télévision du matin au soir et dire, ben, ma vie est passée, puis je me repose. Ou encore, tu continues à être actif et puis tu continues à avoir des rêves et des ambitions. Les plus petites soient-elles, ça vaut de l'or dans pouvoir se garder en forme, en vie, puis avec des rêves encore. Donc, c'est un clin d'œil que je faisais, moi, à Linda, et toutes les Linda Joubert de notre région, si vous voulez, qui réussissent à percer dans leur domaine, comme M. Petit, vous avez interviewé ce matin,
ouais.
Qui réussissent à percer, puis ils viennent des petits milieux, puis c'est, comme je dis, il y a une expression qui dit que c'est pas parce qu'on est petit qu'on peut pas être grand. Comprenez-vous? Alors, c'est un peu ce clin d'œil que je voulais faire ce matin, Linda, de continuer à persévérer dans ça. Puis ça, c'est des messages de vie, souvent, qui sont laissés à ceux qui suivent. Mais comme je vous dis, quand elle est revenue d'Ottawa, elle avait deux médailles d'argent au cou. C'est quand même pas si mal.
Non, puis c'est impressionnant pour avoir vu les images de la compétition. Là, comme tu l'as mentionné, on fait pas des tours de patinoire en souriant. Là. Il y a des figures encore assez difficiles à réaliser et la compétition qui, semble-t-il, était féroce, même s'il y a un esprit de camaraderie avec les années. Là. On n'est pas dans les compétitions ultra-compétitives comme Charlie Bilodeau en faisait auparavant, mais c'est impressionnant de voir qu'elle est toujours active et qu'elle a l'intention de continuer à être active là, dans d'autres compétitions dans les prochaines années.
C'est ça.
Ouais, deuxième sujet, la cueillette d'algues aux trois pistoles.
C'est ça, oui. Alors, vous savez, le fleuve, là, depuis toutes ces années ici, depuis que les Basques sont venus, Jacques Cartier qui est venu, puis nos ancêtres sont venus. Le fleuve a été une source majeure pour pouvoir survivre ici, dans notre territoire. Et le développement du territoire de la Nouvelle-France ou du Québec s'est fait en bordure du fleuve. Rive sud, surtout, plus accessible. Rive nord, plus longtemps après. Quoi qu'il en soit, c'est qu'à trois pistoles, le fleuve nous a, à part de la route qu'elle nous offrait, le chemin qui coule, comme disaient les Indiens, il y a aussi à l'intérieur, dans le fond de ces eaux, plein de richesses de nourriture que nos générations, même encore aujourd'hui, on peut s'alimenter de tout ce qu'on peut retrouver, de poissons, de mollusques et tout. Mais par contre, il y a aussi notre eau salée ici, froide, glacée, a cette capacité de pouvoir produire des algues qu'on ne retrouvera pas à Montréal puis Québec, parce que c'est de l'eau douce. Alors, dans l'est du Québec, vous avez ce qu'on appelle l'ascophylle noueuse. C'est une algue où quand les gens, souvent, si vous marchez sur le bord de la mer, rendu au mois de juillet, août, septembre, dans les grosses marées, souvent, vous allez voir, il y a du varech qu'on appelle. C'est vrai qu'il y a différentes sortes d'algues.
Ouais.
Et la scophile noueuse, elle, c'est comme tu marches, quand tu marches dessus, c'est comme ça pète quand sous tes pas, il y a des petites boules, là. Et c'est, en tout cas, c'est formé de tout ça. Ça, c'est riche en vitamines, en minéraux. Et puis, il y a une entreprise ici qui est dans le parc industriel qui s'appelle Organic Océan, qui, lui, c'est une entreprise écologique, c'est-à-dire, eux autres, ils ont, si vous allez au Quai de Trois-Pistoles, vous allez voir deux gros bateaux, là, avec des fonds plats, avec des brouettes de chaque côté, en aluminium. L'équipe part le matin, mettons, au bassin de la marée, s'en vont, là, entre Kakuna, l'île verte et Trois-Pistoles. Aussitôt que la marée est pas mal échouée, puis leur bateau s'échoue à terre, une dizaine de gars qui sont sur ces deux embarcations-là débarquent avec des faucilles, des brouettes, vont cueillir l'algue. L'algue, bien sûr, dans les brouettes, reviennent au bâtiment, au bateau qui est échoué. Il y a un bras pour lever les algues, puis une fois que c'est plein, c'est des tonnes d'algues qui reviennent à Trois-Pistoles tous les jours par ces embarcations-là et sont débarquées sur le quai de Trois-Pistoles, puis ensuite sont acheminées à l'usine de Organic Océan qui est située environ à même pas un kilomètre du quai. Alors, ça donne une idée qu'on parle d'entreprise écologique. Là. Ouais. Alors, la distance en automobile, en essence, pour pouvoir se rendre du produit qui a été cueilli à l'usine, c'est un kilomètre environ. Alors déjà, là, il n'y a pas grand pétrole qui se dépense. Puis sur l'eau, ben là, durant la journée, ce sont des fossés avec à main que tu coupes à main. C'est pas, il n'y a rien de mécanique. Alors, ce que je vous dis, c'est que ces éléments-là, ces algues-là, servent pour... alors, ils sont transformés ici dans notre usine, ici à Trois-Pistoles. C'est M. Martin Poirier qui en est le président. Si vous avez la chance d'y jaser, vous allez être surpris de voir quel inventaire qu'il fait avec ces algues. Et puis, alors, ça sert pour l'agriculture, l'horticulture, garder les gazons verts, si vous voulez, puis même la nutrition animale. Les vitamines qu'on retrouve dans ça, alors, font que, au niveau de l'alimentation, quand tu sèmes, ben, ces produits-là ont une capacité de retenir beaucoup l'humidité dans le sol, dans la terre. Et puis, quand il y a des périodes de sécheresse, ben, soit ils rentrent en ligne de compte pour pouvoir attendre d'une pluie à l'autre, si vous voulez, entre autres. Puis, il y a aussi une alimentation des plantes aussi, je pense qu'elles possèdent. Donc, je tenais à faire un cadeau à cette petite entreprise-là parce
ben
que
oui.
C'est une dizaine de personnes, entre autres, qui travaillent là. Puis, ils prennent le soin, Kevin, de pas tout faucher là, d'une façon là, anarchique. Ils ont des sites, quoi, ils savent, ils datent sur leur site où ils font le fauchage avec leur faucille. Puis, ils laissent peut-être un an, deux ans, trois ans le temps de reprendre leur énergie. Puis alors, ils ont plusieurs sites de même, puis dans Maslon, entre l'île verte et Trois-Pistoles, dans Maslon pour pouvoir récupérer cette algue-là. Donc, mais ça, là, aujourd'hui, en 2022, c'est de cette façon qu'ils se produisent. Mais, vous savez, notre région, c'est le Bas-Saint-Laurent, Richard Dumont, il y a 25 ans passé, faisait la même chose ici, mais de manière très artisanale. Il était tout seul, il a fait ça pendant 2-3 ans, puis alors, ça a tombé, son entreprise a fermé. Et 25 ans plus tard, ben là, on voit apparaître cette belle entreprise-là qui est organique aussi, qui est très organisée, structurée, et puis qui emploie là, les 10-15 personnes. Là. C'est vraiment, je pense, c'est une belle entreprise écologique, environnementale qu'on a à Trois-Pistoles.
Très intéressant, Jean-Pierre.
Mais, oui.
Vas-y.
Alors, ce que je peux dire aussi, c'est que c'est pas d'hier qu'on ramasse les algues. Il y a une autre sorte d'algue qu'on appelle la mousse de mer, qui est le zostère maritime. Dans les années entre 1850 et 1903, je ne sais pas si Daniel Saint-Pierre était là à cette époque-là. Tu demanderas. Alors, dans cette époque-là, les gens de l'île verte étaient le cœur du Bas-Saint-Laurent. L'île verte était plus gros que Rivière-du-Loup, puis Trois-Pistoles, puis Rimouski au niveau de l'économie et au niveau du légal, du judiciaire. C'est vraiment un cœur central dans le Bas-Saint-Laurent. Et de là a commencé ce qu'on appelle la récolte du foie de mer, la zostère maritime. Et puis les gens partaient. Lorsque leur récolte était terminée, les cultivateurs s'en allaient sur le bord de la mer, les têtes un peu sur le bord de la mer, et allaient faucher avec des faux le foin de mer, la mousse de mer. Puis toute cette mousse de mer-là était ramenée à terre pour être séchée, puis après, elle était embarquée à bord des trains. Les entreprises telles que du meuble à Victoriaville ou autre ailleurs, quand ils ont commencé à développer des meubles avec des rembourrages, les rembourrages, Kevin, là, se faisaient à l'époque avec de la défaite. Tu sais quoi de la défaite?
Non, je ne sais pas.
Les madames qui sont à l'écoute, surtout, là, vont, qui font de la couture, vont comprendre très bien ce mot-là de la défaite. C'est qu'à l'époque, les meubles, chaises étaient rembourrés avec des anciennes, des vieilles étoffes. Mettons, les vêtements du linge que tu utilisais à l'époque, ben, ils faisaient ça ils filochaient le linge, puis ils sacraient ça pour faire de la forme de, ils remplissaient, là, si vous voulez, le rembourraient les chaises avec du vieux linge.
Ah oui.
C'est ce qu'on appelle une défaite, c'est vraiment là, du vieux linge effiloché que les madames faisaient surtout. Et Victoriaville, c'était reconnu pour le meuble. Alors, avec le temps, l'industrie a trouvé que la mousse de mer avait des priorités qui étaient extraordinaires pour rembourrer les matelas. Vous savez, les gens, les enfants faisaient pipi au lit, souvent il y avait des piquets. Puis la mousse de mer, elle a cette qualité de pouvoir absorber l'humidité sans moisir. Et aussi, c'est comme un foam, comme un styrofoam. Tu vas t'asseoir dessus, tu vas marcher dessus, elle va se compresser, puis quand tu débattes, elle reprend sa forme. Alors, c'était vraiment, là, elle avait des qualités terribles. Puis en 1883-1894, c'est là qu'il y a eu une grande croissance à l'île verte, c'était la ruée vers la mousse de mer, pour justement là répondre à l'industrie manufacturière. Mais est apparu au début 1900 aussi, l'industrie de l'automobile, la Ford. Vous savez, les vieux Ford qu'on voit dans les films, là,
ben oui.
Où il n'y a pas de toit, puis il y a des sièges en cuir. Mais les sièges en cuir, la compagnie Ford à Détroit, ils achetaient leurs produits, la mousse de mer, pour pouvoir rembourrer leurs sièges automobiles.
Ah oui?
Alors, ça a été prospère. Alors, là, il y a eu une industrie, là, jusqu'en 1929, là, ça a été une industrie très prospère, jusqu'à ce que le styrofoam ou la mousse, là, arrive, là, chimique, puis qu'ils disent, laisse faire la mousse de mer, on va rembourrer nos sièges avec un produit qui est rendu maintenant, là, qui n'est pas naturel, mais qui fait l'affaire. Donc, alors, c'est pour dire que très longtemps, c'est pas d'hier que le fleuve, nous, à marée basse, ce sont des simples algues, mais par contre, ces algues-là ont eu des effets très bénéfiques pour répondre à les gens qui en avaient besoin, mais aussi à créer de l'emploi pour faire vivre du monde dans notre coin.
Très intéressant, Jean-Pierre. Et en passant, avant de te laisser aller, entrevue très intéressante que j'ai réalisée plus tôt cette semaine avec Christine Dubé. Je tenais à le mentionner parce que tu avais abordé le sujet la semaine dernière de la fabrique de Notre-Dame-des-Neiges, l'église de Trois-Pistoles. Tu m'avais fortement conseillé de contacter cette dame-là. Je l'ai fait et disons qu'elle a été très bonne en entrevue. La fabrique est entre bonnes mains avec cette dame-là à sa tête.
Très organisée. Et merci, je l'ai pris dans l'entrevue qu'il y avait avec Mme Dubé. Puis je reprends, j'écoutais ce que monsieur dit de Saint-Paul-d'Acord, dit, là, que les municipalités, les gens qui, les conseils de fabrique dans le territoire n'auront plus le choix de se orienter dans une autre dimension pour pouvoir faire, si les gens veulent garder leurs bâtiments religieux chez eux, ils peuvent plus compter juste sur les messes puis les aumônes. Il faut créer d'autres animations dans ces milieux-là pour pouvoir amener de l'argent, des sous pour pouvoir les garder debout.
Ouais. Merci beaucoup, Jean-Pierre. À la semaine prochaine.
Salut.
Bye bye. Donc, Jean-Pierre Rioux qui était là pour la chronique des Basses.